Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. On s'étonnerait que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'avait pas moins de 2 à la fois. Ils étaient fort pauvres. Leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot, prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit poussé. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission avec le petit poussé, dont vous avez pu entendre la première partie que nous allons dérouler au fil de cette émission. Alors, docteur Dominique Desmichel, évidemment, cette histoire du petit poussé, ça commence par la présentation d'une drôle de famille.
Voilà, et j'invite bien les auditeurs à écouter le texte, à prendre éventuellement, s'ils ont dans un petit livre, le texte original, parce qu'on va essayer de prendre le temps de lire ce texte lentement, de l'écouter, de comprendre ce qu'il veut dire, et d'essayer de progresser dans une espèce de compréhension vis-à-vis d'une histoire que, au fond, tout le monde connaît plus ou moins, ou en tout cas a entendue dans son enfance, avec plus ou moins de variations.
Il existe beaucoup de variations de ce conte. Hein.
Oui, il y a beaucoup de variations. Donc, voilà, moi j'en ai pris une, peut-être un petit peu par hasard, mais en tout cas dans lequel il y a en tout cas beaucoup de choses. Et à partir de là, l'enjeu n'est pas de faire une lecture exhaustive, intelligente et en gros définitive du petit poussé, mais d'essayer de voir comment à partir d'un texte, on peut essayer de comprendre ce qu'il a envie de nous dire.
Oui, alors je précise que nous nous appuyons sur la version de Charles Perrault.
Oui, voilà. Oui, tout à fait.
Le texte original de Charles Perrault. Alors, Eh bien, commençons, docteur Dominique de Michel. Cette drôle de famille, famille
Oui,
nombreuse déjà.
voilà, tout à fait. Donc, on a en tête l'histoire là qui vient d'être racontée. On a un couple, c'est un bûcheron, il y a une forêt, il a une femme, ça travaille dur. On est au bord de la forêt, hein, c'est pas tout à fait rien. C'est-à-dire, c'est pas un habitant de la ville, c'est pas un habitant d'un village, c'est quelqu'un qui est au bord de la forêt. Et quand on est au bord de la forêt, on va dans la forêt, et la forêt, c'est quand même l'espace qui n'est pas défriché ni déchiffré, on pourrait dire, hein.
Oui,
C'est-à-dire.
le symbole de la forêt dans les contes est énorme, évidemment.
Voilà,
On en a
voilà.
déjà, on l'a déjà évoqué dans, j'allais dire dans presque tous les contes, mais
Oui,
effectivement, il apparaît
absolument.
souvent. Hein,
Voilà, tout à fait. Et en gros, on pourrait dire c'est un symbole de l'inconscient. Alors, l'inconscient, c'est peut-être un peu un mot compliqué pour nos auditeurs, mais on va dire d'une espèce de globalité qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui contient notre histoire personnelle. Quand on était tout petit, on n'a aucune mémoire réelle, autre que corporelle, par exemple, ou inconsciente, mais aussi l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. Et puis peut-être juste 3 milliards d'histoires, ou 3,7 ou 8 milliards depuis que la vie est apparue sur Terre.
Et c'est une porte aussi sur le merveilleux, car dans la forêt des contes, en tout cas, tout est possible. Les animaux parlent,
Voilà.
les arbres font des ombres fantastiques, et bien sûr, on
Voilà.
retrouve les sorcières, les ogres, les dragons, et j'en passe.
Exactement. Et donc là, on va rencontrer quelques-uns de ces personnages dont vous parlez, du côté des arbres et des ogres en particulier. Et donc on a un couple. On a un couple et l'histoire nous dit qu'il y a sept enfants. Alors pourquoi sept? On va pas passer beaucoup de temps sur la symbolique du chiffre 7, qui est une symbolique complexe. J'ai envie de dire qu'une des lectures qu'on peut faire, c'est que le 7, c'est un chiffre du côté d'une totalité. C'est un 4 plus 3, le 4 représentant l'immanence. L'immanence, c'est-à-dire, c'est en gros, c'est la vie de tous les jours, c'est la vie horizontale, c'est là où on est. Et puis de l'autre côté, le 3 de la transcendance, parce que la transcendance, c'est la verticalité, c'est le spirituel, c'est éventuellement le religieux, c'est la Trinité dans la religion chrétienne, par exemple. Mais on retrouve cette Trinité dans énormément de religions, en tout cas autour de la Méditerranée, en Mésopotamie, et aussi il y a une Trinité dans les religions orientales. Il y a une Trinité dans l'hindouisme, par exemple, qui est tout à fait importante. Donc,
Oui, allez-y, je vous en prie.
voilà, donc ce 4 plus ce 3.
Charles Perrault nous fait détaille vraiment cette famille en expliquant que la mère les a eu deux par deux, ces enfants.
Voilà,
Dans des
alors.
espèces d'urgence, en tout cas,
Voilà.
il est dit pour aller vite en besogne.
Voilà, alors ça c'est
C'est
très
étonnant, hein, ouais.
intéressant. C'est-à-dire, je vais proposer, nous allons essayer en tout cas de vous proposer, vous auditeurs, d'essayer de nous arrêter à tous les petits détails en essayant de se dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc là, on a en effet une histoire d'un couple qui, en 3 ans, a eu 7 enfants. Une grossesse, ça dure à cette époque-là, comme maintenant, ça dure 9 mois. Donc, en faisant, voilà, à la louche, ils ont eu des jumeaux, un par an. Voilà, première année, deuxième année, troisième année, puis il y en a encore un dernier, comme ça, voilà, qui arrive. Je crois que le mot d'urgence est un mot intéressant, en effet, à redire, comme si d'un seul coup, il s'agissait pour ce couple d'avoir absolument des enfants, peut-être pour assurer sa descendance. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, quand même, les enfants, ça travaillait tôt. Donc, ça assurait aussi la participation au travail des champs, ici en l'occurrence au travail du bois, hein, pour aller ramasser du bois, ensuite le vendre, peut-être faire du charbon de bois, le vendre, etc.
Oui, les familles nombreuses n'étaient absolument pas une exception
Non.
à l'époque. Hein.
En sachant qu'il y avait d'une part beaucoup d'enfants, une grande
Une grande
mortalité,
mortalité,
hein,
évidemment.
aussi infantile, et que souvent, bon, l'enfant, il était mort, point, on
Ouais.
allait
Ce qui est plus
l'enterrer.
étonnant, c'est qu'elle les a eues deux par deux.
Voilà, elle les a eues deux par deux. Et ce qui est intéressant dans ce deux par deux, c'est aussi qu'il n'y a que des garçons, hein.
Il n'y a que
Voilà,
des garçons.
deux garçons, et puis un dernier. Donc, je trouve que c'est intéressant, et vous allez voir, puisque ceux qui connaissent un peu l'histoire se rappellent qu'un petit peu plus tard, il va y avoir cette fille, dans un autre lieu, on a envie de se dire, bon, il y a cette garçon, bah, ce à quoi on pense, c'est qu'il n'y a pas de fille, quoi, hein. Tout le monde sait bien que la majorité des parents, ils ont bien envie, quand ils ont plusieurs enfants, d'avoir au moins un garçon et une fille, quoi. Voilà, puis peut-être deux garçons et une fille, ou deux filles et un garçon, s'il y en a trois, etc. Donc, il n'y a pas de fille. Et j'ai envie de poser comme point de départ que dans cette famille, la question du féminin a l'air d'être absente de la scène, absente de la scène globale. J'invite nos auditeurs à garder ça en mémoire parce que c'est ce qui va servir de fil global et de fil conducteur à toute mon histoire, à savoir le point de départ, c'est que dans cette famille, il y a certains couples, un homme, une femme, certes, il y a une femme, donc il y a du féminin, c'est peut-être pas très très simple, il y a du maternel, c'est peut-être pas très très simple, on va le voir après, mais que en tout cas, il y a pas de fille. Voilà, il y a pas de fille.
Alors non seulement il n'y a pas de fille dans cette drôle de famille, mais en plus il y a un enfant très spécial, le petit dernier, comme par
Voilà.
hasard.
Voilà, il y a le petit dernier, comme souvent dans les contes, hein, il y a une figure particulière, il y a un enfant particulier, c'est rarement l'aîné, ça peut être le cadet, hein, je rappelle que le cadet, ça veut dire normalement le deuxième, mais quand on dit c'est le cadet de mes soucis, eh bien ça veut dire en gros je m'en fous, hein, c'est-à-dire c'est le dernier de mes soucis. Et puis là, en l'occurrence, c'est le petit dernier. Et le petit dernier qui a plein de caractéristiques, c'est que d'abord il n'a pas de frère jumeau, et encore moins de sœur jumelle. Qu'il est tout seul, que c'est quand même un garçon, et puis qu'il va avoir un nom particulier. Et ce nom, c'est quoi? C'est le petit poucet, avec une espèce de répétition qui dit d'une part qu'il est petit, et deuxièmement que c'est un pouce. Alors, le pouce, c'est un doigt particulier, hein. Regardons tous notre main. Ce pouce a une fonction spécifique, puisque c'est celui qui va permettre de faire la pince. Alors la pince, c'est très très important. Chez nos ancêtres, les singes, pour grimper aux arbres, il faut avoir une pince. Essayez de grimper quelque part ou de monter quelque part sans vous servir de votre pouce, pour agripper quelque chose, même pour tenir une feuille de papier, un stylo. On peut certes écrire sans avoir de pouce, mais c'est quand même nettement plus compliqué. Donc on voit bien que ce petit poucet, il est petit, et c'est vrai d'ailleurs que le pouce est le doigt le plus petit. Il est un peu en opposition, il se différencie et il a une fonction de presque de miroir, on pourrait dire. Dans une main, on tient sa main, on l'écarte comme ça, et on voit bien qu'il pourrait y avoir comme une sorte de dialogue entre le pouce. Là, je fais ça en même temps, évidemment, c'est pas très facile à la radio, mais chacun peut le faire. On voit bien que le pouce, c'est presque comme s'il était en dialogue avec les quatre autres doigts.
Et c'est le dernier de la famille. Alors, dans une famille nombreuse, être le dernier, ça signifie quoi? Vous venez, je crois, d'une famille nombreuse.
Oui, voilà, oui, tout à fait. Il y a
Vous
pas
n'étiez
de...
pas le dernier, non?
Non, 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 moi je suis
Non.
l'aîné, je suis tout à fait
D'accord, ah
l'aîné,
oui.
mais en effet, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, et d'ailleurs, mon dernier frère a pas beaucoup d'écart avec mon fils aîné, hein, donc voilà, il y a une espèce de continuité, et d'ailleurs, il y a une grande proximité affective entre mon dernier frère et mon fils aîné, et notre fils aîné, donc voilà, on voit bien qu'il y a une histoire de continuité. Alors, ce petit dernier, on sent qu'il a une place particulière, d'une part parce qu'il est singulier, il n'appartient pas à une paire, et deuxièmement parce qu'il est le pouce, donc il a cette différenciation.
Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir, que ses enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur, « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux et je suis résolu de les mener perdre demain au bois, ce qui sera bien aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. » Ah? s'écria la bûcheronne. Pourrais-tu toi-même mener perdre tes enfants? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur cela lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Le petit poucet ouït tout ce qu'ils dirent, car ayant entendu de dedans son lit qu'il parlait d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit point du reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux blancs, et ensuite revint à la maison. On partit, et le petit poucé ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où à 10 pas de distance, on ne se voyait pas l'un de l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser des broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ses enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poucé les laissait crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison, car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc « Ne craignez point, mes frères. Mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis. Suivez-moi seulement. »
Every night he'd come to me. I'd cook for him, I'd pour his tea. I was in my 30s then. I'd made some money, lived with men. We'd lay us down.
Nous nous retrouvons dans votre émission Règlement de compte avec aujourd'hui le petit poucé et le docteur Dominique Desmichel, avec lequel nous tentons de décrypter ce conte qui cache évidemment bien plus que ce qu'il n'y paraît, comme tous les contes. Alors, nous venons d'entendre la suite de ce conte et effectivement, l'histoire s'emballe à cause d'une famine, de problèmes de pauvreté, de problèmes d'argent en tout cas.
Voilà. Comme souvent dans un roman, on décrit un petit peu les personnages. Bon, de temps en temps, on peut commencer par une situation. Mais là, en tout cas, la situation arrive, le drame arrive, la pauvreté s'installe. Et c'est bien important parce qu'on va voir après que ça va revenir. Il y a une première occurrence, une première notation autour de l'oralité, autour de l'alimentation. Hein. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a une guerre, c'est pas qu'il y a... un orage avec des pluies qui n'arrêtent pas, c'est pas qu'il y a une sécheresse, c'est qu'il y a une famine. C'est-à-dire que l'alimentation est insuffisante, que les stocks de l'été ou de l'automne dernier ne sont pas suffisants. Donc ça, c'est bien important. On a le père et la mère qui se désolent, et qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Ils décident de se débarrasser des enfants. Alors, certes, il faut se rappeler qu'on est au XVIIe siècle, que la place des enfants n'était pas la même, mais elle n'était pas dans une sorte d'indifférence par rapport aux enfants. Simplement, la mort des enfants était plus habituelle, et donc elle n'était pas probablement un drame comme elle l'est maintenant. Hein, il faut se rappeler de Montaigne, par exemple, qui dit dans les essais qu'il ne sait plus très bien combien elle a eu d'enfants. Évidemment, maintenant, quelqu'un vous dirait ça, « Bah oui, j'ai perdu des enfants, je ne sais plus trop combien. » On dirait, oh là là, ça relève presque ouais. de la psychiatrie ou en tout cas de quelque chose qui... C'est pas possible, ça. Tout le monde le sait. Non, là-bas, il y avait des naissances et puis il y avait des enfants qui mouraient au bout de 3 jours. Et ben, de temps en temps, 10 ans ou 15 ans après, s'il y avait eu 3 morts ou 4 morts, on ne savait plus très très bien. Voilà, ce n'était pas un enjeu. Il n'y a pas d'enjeu d'ordre moral. Mais quand même, à cette époque-là, les enfants, on ne les abandonnait pas. parce qu'on les aimait, bien évidemment, parce qu'ils étaient aussi de la main-d'œuvre, parce qu'ils étaient aussi une filiation. Donc décider d'abandonner ses enfants, ça a probablement à peu près la même valeur que maintenant.
Oui, donc on entre de plein pied dans le domaine du merveilleux et du conte avec cette situation d'abandon des 7 enfants d'un coup.
Et oui. Oui.
C'est le père qui prend la décision. Ça peut paraître pour le coup assez normal dans le couple, surtout à l'époque où on imagine que l'autorité était du côté du masculin.
Oui, alors ce que vous dites, c'est très juste. Et en même temps, j'ai envie de souligner que si le père peut être dans une position d'autorité, par exemple en tant que responsable de l'économie familiale, hein, c'est-à-dire c'est lui qui tient les comptes, c'est lui qui regarde le relevé bancaire à chaque fin de mois et qui se dit non, on peut pas partir en vacances ou c'est pas le moment de changer la voiture, ça va attendre un an ou deux, mais là on peut pas. Là, on est dans cette possibilité d'une lecture économique, mais aussi que c'est quand même que il dit pas on va se priver ou alors on va vendre telle ou telle chose pour gagner des sous. C'est quand même dans sa partie maternelle, hein, c'est-à-dire lui dans sa polarité maternelle qui décide d'abandonner les enfants. On voit que la mère refuse pendant un certain temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, le texte dit que pour elle, ça serait dur de les voir mourir de faim. Donc ça n'a pas l'air d'être l'abandon des enfants qui est difficile pour elle, c'est qu'elle ne supporterait pas de les voir mourir de faim. Je trouve que c'est un peu curieux, puisque au fond, c'est encore autour de l'oralité. Hein, c'est-à-dire, c'est encore autour de... je ne peux pas supporter l'idée de voir abandonner mes enfants et de ne pas savoir ce qu'ils vont devenir, donc de les perdre, mais de les voir mourir de faim. Donc, on ne sait pas très très bien si c'est pour éviter, elle, de souffrir, ou parce qu'elle se dit que finalement, en les abandonnant, elle va peut-être leur donner une autre chance. Hein. Par exemple, les mères qui abandonnaient leurs enfants en les laissant dans des lieux particuliers où ils peuvent être recueillis, elles les abandonnaient certes dans un certain sens, mais dans un autre, elles leur redonnaient une deuxième chance en se disant qu'ils pouvaient être accueillis par quelqu'un d'autre.
Oui. Alors, le héros de notre histoire, le petit poussé, il a aussi une particularité, c'est que la nuit, il ne dort pas et il tend l'oreille.
Voilà, on sent que lui, il est attentif à quelque chose, c'est-à-dire qu'il est investi déjà d'une fonction. Et voilà donc, pour la première fois, notre figure de héros qui se déploie comme figure de héros. Il va se glisser sous l'escarcelle du père Bûcheron. Alors j'insiste sur ce mot de père Bûcheron parce qu'on va revoir après que je vais employer plusieurs autres mots. Donc j'appelle ce premier père, qui est donc son papa historique dans l'histoire, comme sa maman historique, je l'appelle le père Bûcheron parce qu'on va revoir plusieurs figures de père après, en tout cas deux autres dans la suite du conte.
Alors un enfant qui se réveille la nuit, ça aussi c'est une particularité du héros, parce que la nuit c'est là où les secrets se dévoilent, en tout cas les secrets qui n'ont pas cours le jour. Hein.
Oui, et puis on peut dire que normalement, un enfant qui a une sécurité intérieure suffisante, apportée par les parents, eh ben il dort la nuit. Hein. Voilà, on pourrait dire celui qui ne dort pas, c'est celui auquel il manque au moins à l'intérieur de lui une mère veilleuse, hein, c'est-à-dire une mère, une fonction maternelle tenue par le papa ou la maman, peu importe, qui veille sur lui. Et il a cette sécurité à l'intérieur et il se dit « je peux bien m'endormir sans aucun problème puisque de toute façon il y a une sécurité ». Donc lui, probablement, il avait déjà cette intuition qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas bien et donc il est attentif. Et il entend la conversation, on l'a vu, il se place sous l'escarcelle. Et le mot escarcelle est intéressant parce que sur le plan de l'étymologie de ce mot, escarcelle, c'est la petite bourse qu'on porte à la ceinture. Et ça vient du mot arcel ou arceles qui veut dire gousser. Mais il y a aussi un autre sens, en particulier au XIe siècle, qui est celui d'avare, celui d'épargnant. Voilà, et d'ailleurs, escar en ancien français, ça veut dire avare, j'ai trouvé ça dans le dictionnaire littré. Donc on peut penser aussi que du côté des parents, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est peut-être pas obligatoirement simplement une famille qui viendrait de l'extérieur, c'est qu'aussi... les enfants, ça bouffe, ça coûte cher, c'est un peu pénible, et que si on pouvait s'en débarrasser, ça permettrait de changer la voiture plus tôt, quoi. Hein, évidemment, je change de chronologie, mais c'est aussi pour redire, et vous allez le voir quand on va finir ce conte, que cette histoire, elle nous parle à nous, hommes et femmes du 21e siècle. Je crois qu'elle n'a pas perdu de sa pertinence, en particulier sur le plan psychique.
Et c'est à cela qu'on reconnaît la profondeur d'un conte,
voilà,
probablement. Oui.
Son universalité et son atemporalité, ou son intemporalité.
Alors, le petit poussé, bien sûr, donc, comprend que ses parents veulent les abandonner. Et il se lève de bon matin et va ramasser des cailloux blancs.
Voilà, il va ramasser les cailloux blancs. Alors les cailloux blancs...
symbolique des couleurs, on l'avait déjà évoqué, mais elle est toujours très présente, évidemment.
Oui, alors on ne retrouve pas comme dans Blanche-Neige, dans Le Petit Chaperon Rouge, le noir, le rouge et le blanc. Mais ici, on a vraisemblablement, en tout cas, le noir de la nuit, le noir de l'angoisse, le noir de la peur, quelque chose qui est quand même du côté du terrifiant et qu'on va retrouver par la suite, puisque la deuxième grande partie du récit va se passer pendant la nuit, avant qu'il y ait une troisième partie. Et donc, on pourrait dire que le blanc, c'est ce qui vient éclairer quelque chose, ce qui vient s'opposer... au noir.
Et le petit poussé n'en parle pas à ses frères, curieusement. Il prend toute la responsabilité sur ses épaules et garde ça pour lui.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les trois autres binômes, les six autres enfants, ils apparaissent comme... ils apparaissent pas, ils sont une espèce de collectif tout à fait indifférencié. Ils n'ont pas de prénom. On va voir un tout petit peu plus tard qu'il y a vaguement l'aîné qui apparaît.
Le préféré, mais
c'est tout. Donc ils sont peu indifférenciés. Donc on voit bien que lui, il se sent investi d'une charge et d'une responsabilité particulière. Il garde le silence, comme vous le dites. Il n'en parle pas à ses frères, mais il n'en parle pas non plus à ses parents. Parce qu'il pourrait dire, ça veut dire quoi, ce dont vous avez parlé cette nuit? Non, il n'en parle pas.
Ce qui devait arriver arriva, et donc les parents emmènent leurs enfants dans la forêt et en profitent pour les abandonner, de manière fort lâche, à vrai dire.
Oui, voilà, tout à fait.
En prenant un chemin de traverse et puis en partant en courant.
Exactement, tout à fait.
Manque d'imagination.
Voilà, et puis ils n'assument rien du tout, quoi. Ouais. Au fond, c'est comme s'ils avaient oublié un petit objet qui ne servait pas à grand-chose, encore que là, on peut le faire par inadvertance, tandis que là, c'est vraiment tout à fait volontaire. Et c'est là que, pour la première fois, le petit poussé prend la parole. Et c'est intéressant, mais j'aime bien m'attacher au texte parce qu'il dit « mon père et ma mère ». Voilà, il parle de son père et de sa mère. Il ne parle pas de notre père ou de notre père ou de notre mère. Donc je me disais, sans avoir de réponse particulière, que lui, il doit se sentir investi d'une filiation particulière. Ce qui me laisse à penser que justement... Et on va revoir ça pour ne pas trop diaboliser les parents non plus. On peut penser que les deux parents, le père bûcheron et la mère, ont fait six enfants. Puis ensuite qu'ils ont fait ce septième dans quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'ils ont été à ce moment-là dans une fonction parentale singulière et que lui, donc, il parle de ce couple-là qui probablement n'a pas fait simplement les six enfants, mais a fait le petit poussé. Voilà, c'est dans ce sens-là, moi, que j'aurais envie de l'entendre. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais lui, il dit « mon père et ma mère qui ont fait le petit poussé, voilà, qui m'ont fait moi petit poussé, voilà ce qu'ils ont fait ». Et en tout cas, il nomme le drame, il ne le nie pas, il ne protège pas les parents, et il se pose plutôt comme une sorte de frère aîné, et il se fait fort de pouvoir rentrer à la maison familiale.
Et c'est ce qui va arriver, car le petit poussé va retrouver ses cailloux blancs, comme tout le monde le connaît, et ils vont retourner chez leurs parents. Mais ça, nous poursuivrons cette histoire dans 15 jours, docteur Dominique Michel, parce que oui, le temps passe et notre émission touche déjà à sa fin. Merci beaucoup.
Et bien, à la prochaine fois.
I should have known there was someone else. Down below, I always kept it to myself, and I believe in nothing. Not today, as I move myself out of your sight. I'll be sleeping by myself tonight. I could never go to no one else. The hurt don't show.